Bonjour et soyez les bienvenus sur Corsica Radio pour un nouveau numéro de Revue de Corse, formule collégiale cette semaine avec à mes côtés Michel Barra, ancien recteur de l'Académie de Corse. Bonjour Michel.
Bonjour.
Laurent Dominati, éditeur homme de médias et président de l'association Sauver la Méditerranée. Nous parlerons d'ailleurs du premier festival de la Méditerranée qui aura lieu du 20 au 22 mai prochain à Ajaccio. Bonjour Laurent Dominati.
Bonjour.
Également parmi nous pour cette émission spéciale climat et environnement, Patrick Rebiou, chef du Centre météorologique de Corse et référent territorial de Météo France. Bonjour Patrick Rebiou.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors messieurs, je vous propose de commencer par l'urgence. Nous n'avons plus le temps d'attendre, Patrick Rebiou. Le 4 avril dernier, les experts du climat de l'ONU, qui font partie du fameux GIEC, ont publié un nouveau rapport consacré cette fois-ci aux solutions pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Ces préconisations ont pour objectif de limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré Celsius, comme cela avait été convenu et scellé par l'accord de Paris en 2015. Alors après la mise en garde et le constat, les effets du changement climatique, vient enfin le temps des solutions.
Alors des solutions
Rebiou.
Pour l'atténuation en tout cas.
Oui.
Le GIEC fait trois rapports. Un rapport sur les éléments physiques du climat, un rapport sur l'adaptation et un rapport sur l'atténuation, c'est-à-dire comment on va faire pour diminuer de manière drastique les émissions de gaz à effet de serre. Et donc, si on veut être sur une trajectoire à 1,5 degré, un scénario socio-économique qui nous amène sur 1,5 degré, ça veut dire qu'il faut, à partir de maintenant, et pas à partir de 2025, à partir de maintenant, réduire nos émissions de gaz à effet de serre de 43%. D'ici 2050, c'est-à-dire 4,3% par an.
Qu'est-ce que ça implique,
alors, par exemple? Qu'est-ce que ça implique?
Faites-nous rêver.
Pendant le Covid, quand tout était arrêté, on a eu à peu près 4% de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Donc il faudrait faire ça tous les ans jusqu'en 2050. Donc ça veut dire qu'effectivement, le rapport du GIEC, là, bon, on ne va pas dramatiser. Il propose quand même beaucoup de solutions sur décarboner l'énergie, décarboner les transports, des solutions sur l'agriculture, sur la forêt, parce que ça fait des puits de carbone, tout un tas de prescriptions, de possibilités qui sont étudiées. Le GIEC n'est pas réellement prescriptif. Il propose des solutions qui doivent être mises en œuvre après par les politiques publiques. Et d'ailleurs, le résumé du GIEC, il est validé par les gouvernements. Donc ils ont accepté ce qui est dedans. Et donc oui, voilà, l'atténuation, c'est ça. C'est éviter le pire.
Alors, vous avez abordé le sujet. Quelle est l'utilité de ces rapports publiés par le GIEC dans la mesure où ils n'ont pas de pouvoir contraignant sur les États ou les entreprises? Alors, mis à part faire monter l'anxiété climatique chez le citoyen lambda.
Alors, ils n'ont pas de pouvoir contraignant, mais ils dressent quand même, que ce soit pour la physique de l'atmosphère, pour l'adaptation, un état des lieux qui sont quand même lus par les politiques. Je veux dire, les COP, elles s'appuient sur ce genre de rapports. Et la COP26, même si elle n'est pas complètement réussie, nous amène, elle propose, enfin, les engagements des États correspondent à un scénario de diminution des gaz à effet de serre, je vais dire intermédiaire, qu'on appelle le 4.5. C'est pas celui qui va amener à 2 degrés ni à 1,5 degré, mais c'est quand même pas le pire comme il y avait encore une dizaine d'années qui nous amenait vers 6 degrés à la fin du siècle.
D'accord.
Donc voilà, ça sert à ça. Il propose des possibilités. Après, oui, il faut des politiques pour les mettre en œuvre.
Michel Barra, sur le GIEC, ses publications et les politiques à mettre en œuvre.
Oui, mais je pense que ce dont il s'agit, c'est premièrement le rapport que l'on a aujourd'hui au discours scientifique. Non pas sa crédibilité, et sa crédibilité, ce n'est pas les scientifiques qui sont en cause. C'est quelle crédibilité donne-t-on aujourd'hui à un discours scientifique? On s'est aperçu, en particulier lors de la crise du Covid, que la crédibilité d'un discours scientifique devient de plus en plus faible. L'ordre de l'opinion, mais l'opinion tout venant, et non pas l'opinion dans le cadre d'un débat, ce qui serait encore autre chose, prend le pas sur la vraie réflexion. Et deuxièmement, pour affronter ce type de situation dans laquelle on est, qui est un problème civilisationnel, il faut sortir des clichés habituels, où on veut nous opposer le productivisme, le luxe à la Voltaire, je vais vous dire, avec le totalitarisme à la Rousseau. Non, c'est pas du tout ça dont il s'agit. C'est que de toute façon, que si on n'écoute pas, on aura le totalitarisme. Mais on aura le totalitarisme imposé parce que nous serons dans la contrainte climatique, et il n'y aura pas d'autre solution quand on sera sur des restrictions d'eau qui nous seront imposées, on ne va pas se dire, attendez, aujourd'hui, je ne peux pas remplir ma piscine, c'est, je ne vais plus avoir de piscine. Donc la question ici, on va avoir un totalitarisme de fait. Alors, qu'on pose le problème en termes de civilisation, plus qu'en termes de politique qu'au sens le petit du terme. Mais est-ce que les politiques peuvent faire autrement que d'être des politiques ? C'est un autre sujet.
Laurent Dominati, est-il déjà trop tard ?
C'est une très bonne question que pose Michel Barrat, et évidemment, vous aussi antérieurement par votre savoir. C'est qu'effectivement, pour l'instant, la plupart des solutions qui ont été proposées sont été vues sous le terme de la contrainte. D'ailleurs, vous avez dit ce qui est embêtant, c'est que le GIEC, c'est bien intéressant, mais il n'a pas de pouvoir. Non, il n'a pas de pouvoir. Même s'il est composé, en réalité, de représentants et d'experts désignés eux-mêmes par les gouvernements. Ils sont des scientifiques, des experts, mais ils sont habilités par les gouvernements à discuter entre eux, puis à produire un rapport, puis ensuite à faire des recommandations aux différents gouvernements, comme beaucoup d'autres organismes internationaux, comme la Banque mondiale, comme le FMI, comme l'OCDE, qui sont composés de représentants des gouvernements, puis des experts nommés par les gouvernements ou par ses représentants, puis qui fait des rapports, et ensuite on vous dit il faut complètement transformer il faudrait transformer le système éducatif en France. Bon, bah ensuite le gouvernement français fait ce qu'il veut, mais il a différents rapports et différentes comparaisons. Et les gouvernements, comme le dit Michel Barrat, bah, sont des politiques, ça veut dire qu'ils prennent en compte différentes priorités. Et où est-ce qu'on met la priorité? Est-ce qu'on la met d'abord dans le climat? Est-ce qu'on la met dans l'école? Est-ce qu'on met dans l'université? Est-ce qu'on la met dans la pauvreté? Est-ce qu'on est dans la santé, etc. Tout cela est fini, c'est-à-dire les capacités de réglementation comme d'investissement, elles sont toutes finies. Et donc, il y a des choix à faire. Alors, en ce qui nous concerne, nous, c'est-à-dire l'Europe et la France, je dirais, on est plutôt en pointe et en retard. C'est-à-dire qu'on est en pointe sur les discours, sur l'alerte, même sur les émissions de carbone. Même sur les émissions de carbone, la France, grâce au nucléaire, en réalité, on ne l'a pas fait exprès, mais ça tombe bien, on est un des plus faibles pollueurs d'Europe, et l'Europe n'est pas le plus principal pollueur. Grand pollueur, c'est les États-Unis, la Chine, l'Inde, etc. Donc, même si la France tombait à zéro émissions de carbone, le climat ne changerait peut-être pas fondamentalement. Mais enfin, il y a une valeur exemplaire, et puis chacun doit faire à sa place, et puis chacun doit faire chez lui. Et donc, on a une valeur effectivement en avance d'un certain point de vue, dans le discours, dans les COP qu'on a initiés. Et puis on est important parce qu'on n'a pas fait tout ce qu'on devait faire non plus par rapport à ce qui était prévu. Et pour le faire, il faut effectivement beaucoup plus, à mon sens, d'investissements technologiques qui existent. Il y a des tas de choses du point de vue technologique qui existent, que de réglementation supplémentaire, parce qu'en matière de réglementation, je crois qu'on a déjà fait pas mal avec l'Europe, et on est déjà assez fort, même si on a déjà prévu, si vous voulez, la réglementation qui va venir après. Voilà.
Patrick Rubio.
Vous parlez de solutions technologiques, vous voulez évoquer quoi ?
Oh, moi, je regarde un petit peu en amateur un peu tout ce qui se fait, notamment en matière de pour sauver la Méditerranée, dont on va parler bientôt. Mais je vois qu'en Bretagne, ils produisent des algues, qu'en Corée, ils font de la marée thermique. Si vous voulez, la question, c'est une question de transition énergétique. Ou alors, ça veut dire qu'on se restreint. Ça, je ne crois pas du tout que les gens vont préférer être pauvres plutôt que de sauver le climat. Peut-être en France, et encore j'en doute, mais certainement pas en Inde, et encore moins en Chine, en Amérique latine. Donc, ils voudront pas. Ils préféreront être riches et pollués. Je pense que c'est un état de base dont tiennent en compte les politiques. Et puis, alors en France, peut-être qu'on va économiser, etc. Mais je crois que la bonne réponse est une réponse technologique et évidemment réglementaire, en haussant en quelque sorte les normes, qu'elles soient industrielles ou qu'elles soient de production, ce qu'on a fait d'ailleurs pour les logements, par exemple. C'est un bon exemple. Le logement devient de plus en plus cher en France et en Europe. Pourquoi ? Parce qu'on met des normes de plus en plus contraignantes. Entre autres, il n'y a pas que pour ça qu'il est plus cher, mais les normes que l'on édicte ont un coût sur notre niveau de vie. On peut le faire un peu, on peut le faire en mesurant, mais je crois beaucoup, moi, aux investissements technologiques. Alors peut-être que je me leurre totalement, parce qu'il y a des projets magnifiques en marée thermique, dans le solaire, tout un tas de choses que je vois, dans les algues, les champignons, les bactéries. Enfin, tous les jours arriver des projets merveilleux.
C'est typiquement les solutions qui sont proposées dans le dernier rapport. Quoi. C'est pour ça que je vous pose la question, hein, parce que, en fait, oui, il faudra faire de l'énergie solaire, oui, il faudra faire de l'éolien, Il faudra peut-être faire du nucléaire, hein, c'est pas écarté par, dans ce rapport. Et il faudra aussi beaucoup économiser, transformer les bâtiments, quoi. Donc, je vous ai posé la question parce que je pense que la solution n'est pas que technologique. D'abord parce qu'effectivement, on aura des problèmes d'énergie qui a une inertie sur le climat. Et par exemple, on parle beaucoup des puits de carbone. Les puits de carbone, par exemple, le scénario qui nous amènerait à 1,5°C, là, le scénario le plus vertueux, il prévoit des émissions négatives, c'est-à-dire des systèmes pour capter le CO2 en trop. Donc il y a des solutions biologiques, hein, les forêts, etc. Et il y a des choses, mettre dans des puits, mais ça demande de l'énergie. Et c'est, pour le moment, c'est de la recherche, quoi. Et vu l'urgence, c'est pour ça que je vous ai posé la question. C'est une solution technologique qu'on ne peut pas mettre en avant pour le moment, en tout cas. Voilà.
Au festival qu'on va organiser bientôt, la maire de Grosseto-Prugna, que vous connaissez bien, elle est en train de prévoir avec un cabinet d'audit suisse un système d'investissement sur les économies d'émissions de CO2 que va faire la collectivité locale. C'est donc un système, puisque vous savez qu'il y a un marché de la tonne de carbone, il y a une obligation pour des entreprises, là c'est la réglementation, de diminuer les émissions carbone. Donc si on diminue plus que ce à quoi on a droit, on peut vendre sur le marché. Je simplifie.
Je suis d'accord.
Et donc, c'est en réalité, l'idée de faire de la banque avec un canibus, elle viendra l'exposer beaucoup mieux que moi, parce que moi, je ne suis pas spécialiste de ça. Mais l'idée, c'est, je vends à l'avance les économies que je vais faire sur le marché, ou je les fais garantir par une banque, enfin, je ne sais pas comment elle va faire. Ça, c'est de la finance. Et en revanche, avec l'argent que j'ai, je fais les investissements qui vont permettre de diminuer les émissions carbone, notamment dans tous les bâtiments administratifs. Vous voyez, c'est une technologie, ça, c'est juste la technologie financière.
Oui, je suis d'accord. Ouais.
Laurent Dominat, justement, la transition est parfaite. Première réflexion sur le coût de la transition énergétique. A-t-on les moyens d'être plus vertueux, d'encourager la transformation de l'économie, des industries qui payent ? Michel Barrat.
Mais écoutez, derrière ça va se poser la question de ce qu'on appelle du sujet de la croissance. Quand on dit qui paye, on va se dire il faut faire de la croissance pour pouvoir payer. C'est la réponse habituelle à tout problème économique. On peut peut-être poser le problème suivant. Est-ce qu'il ne faut pas modifier, non pas parler de croissance zéro, mais modifier le concept même de croissance ? Aujourd'hui, nous avons une vision d'un PIB qui n'est que quantitatif. Si on introduisait dans l'idée de croissance, y compris dans le classement des pays par leur PIB, d'une dimension de type qualitative, qui est, par exemple, les qualités de vie. Et les qualités de vie qui ont des effets économiques. Parce que si j'ai une bonne qualité de vie, si j'ai moins de pollution, je vais avoir moins de dépenses de santé dans les villes. Donc la question, elle est de poser ici, c'est pour ça que j'ai dit que c'était vraiment une question civilisationnelle. C'est plus dire croissance, non-croissance. C'est dire de quelle croissance il s'agit, et de modifier profondément nos concepts. Non plus d'une croissance qui est une croissance quantitative, mais d'une croissance qui va être qualitative. Mais là, nous sommes dans quelque chose qui va bien au-delà de la question politique, qui est effectivement du civilisationnel. Nous sommes aujourd'hui une crise au sens étymologique du terme. On est au maximum de ce qui est possible. On est au point le plus aigu. Mais ce point le plus aigu devrait nous donner la possibilité d'avoir des solutions. Et ce qu'on lit dans les rapports du GIEC, c'est que les solutions existent.
Oui.
Elles existent. Et donc il faut être capable aussi, premièrement, d'en faire, je dirais non pas la propagande, on n'est pas en Union soviétique, pardon, en Russie, mais d'en donner la connaissance. Les gens savent-ils qu'il y a des solutions ? Et une fois qu'on sait qu'il y a des solutions, c'est la question de la mise en œuvre de ces solutions. Mais si on ne sait pas qu'il y a des solutions et qu'on y voit ça comme un destin funeste, la Méditerranée, comme d'autres, ne seront point sauvés.
Patrick Rebillot.
Alors, dans ce rapport du GIEC, hein, le coût de la décarbonation de l'énergie, enfin, les démesures pour diminuer les émissions de gaz à effet de serre et le changement de société que ça implique, si on le veut, c'est seulement quelques pourcents du PIB actuel. Et ça coûterait beaucoup plus cher de ne rien faire que de faire quelque chose. Et c'est vrai qu'il y a une espèce de déni. Je rebondis un peu sur la taxe carbone. La taxe carbone, oui, c'est bien. Sauf qu'il ne faudrait pas s'en servir pour polluer, pour vendre après. Ça peut être quelque chose de perverse. En fait, je suis d'accord vraiment avec Michel, c'est-à-dire c'est un changement systémique. Sinon, ce ne sera pas possible, ça c'est certain. Et oui, je suis d'accord sur le PIB qui n'est pas forcément correctement évalué, mais même là, bon, je dépasse mon métier de météorologie. Mais voilà, il faut absolument qu'il y ait quelque chose de différent qui soit proposé. Dans le système actuel, je pense que non, on n'y arrivera pas. Enfin, les possibilités ne seront pas prises par les politiques, au sens large.
Laurent Dominati.
Mais moi, je suis plutôt... je me sens plus optimiste et peut-être plus pragmatique. Je ne pense pas qu'on peut dire aux gens il faut faire la révolution parce que sinon le ciel va nous tomber sur la tête et vous allez vous serrer la ceinture pour cela. Je ne crois pas du tout à ce discours-là futile assis sur la science. Je ne crois pas. Voilà. Je crois en revanche qu'il y a des choses déjà extraordinaires qui se passent. Nous avons vécu dans l'histoire de l'humanité plusieurs révolutions énergétiques, hein, notamment la dernière, la révolution industrielle, c'est une révolution énergétique. On passe de la traction animale au charbon, puis ensuite l'électricité, etc. Bon, et puis au pétrole, enfin tout ça. Mais ça va être la première fois qu'on va faire une transition énergétique, parce qu'en réalité, il s'agit de finances et transition énergétique pour l'essentiel, par voie réglementaire. Ça veut dire que c'est par voie réglementaire qu'on fixe les prix, qu'on interdit, qu'on fixe des normes. Et c'est par voie réglementaire qu'on dit ben maintenant, par exemple, le charbon, terminé. Alors qu'il y a toujours du charbon, et on a tant qu'on veut du charbon. Sauf que comme on ne veut plus de charbon, en France, du charbon.
Sauf si on est allemand.
Sauf
si on est allemand.
Sauf si on est allemand, mais même eux ont accepté le plan européen sur la fin du charbon. Alors voilà. Et la Pologne s'est faite condamner d'ailleurs récemment pour le maintien en activité d'une mine de charbon. Donc c'est la première fois qu'on dit ça marche, il y a du charbon, ça peut chauffer. Ben non, on n'en veut pas. Donc c'est quand même, vous parlez de révolution systémique, où Michel Barra parlait de modes différents de penser la civilisation. C'est la première fois que des gouvernements se mettent d'accord pour dire on pourrait consommer du gaz, on pourrait consommer du pétrole, on pourrait consommer du charbon, mais on ne va pas le faire. Et les gens acceptent. Je trouve que c'est quand même déjà une petite révolution. Donc c'est la raison pour laquelle je suis moins pessimiste et je me dis si on arrive à faire des choses comme cela, comme on a effectivement, vous avez raison à mon sens, déjà un certain nombre de technologies qui existent, de savoir-faire, comme on a des tas d'expériences, de prototypes, d'expérimentations qui sont en train de naître, comme finalement, oui, ça va coûter quelques milliers de milliards de dollars, ce qui est énorme, mais ce qui n'est pas non plus, au niveau de la planète, gigantesque. Et si on arrive à faire en sorte que ces investissements-là rapportent, et je suis persuadé qu'ils vont rapporter ne serait-ce qu'en termes d'énergie, eh bien, je crois qu'on y arrivera. Alors, peut-être un peu tard, peut-être ceci, peut-être cela. Mais moi, j'ai une telle foi en l'intelligence humaine que je ne peux pas me résigner à la catastrophe.
Alors, deuxième réflexion, les citoyens sont-ils prêts à adopter une plus grande sobriété dans leur comportement, alors même que les États, les entreprises ne sont pas forcément exemplaires? Est-ce que ce double langage, ce double standard est acceptable? Laurent Dominati.
Les États sont à l'image des citoyens. Les citoyens sont tout à fait convaincus. De là à être plus sobres, ils verront après les vacances.
Patrick Reviaud.
En fait, je suis d'accord. Il y a des choses qui ont été faites et qui se font. Et d'ailleurs, les COP26, elles fixent. C'est les engagements de l'État. Mais moi, ce qui m'inquiète, qui me rend plus pessimiste que vous, c'est que les engagements de la COP26, ça nous mène à un monde à 3 degrés. Donc c'est dans ce sens-là que je suis pessimiste. C'est-à-dire qu'il faudrait que les engagements soient beaucoup plus drastiques, sévères. Quoi. Voilà, c'est tout le problème. Et je me demande si... en Inde, ils ont eu une vague de chaleur depuis un mois. Il a fait plus de 48 degrés. Et on n'est qu'à 1 degré de réchauffement climatique global. Donc à 2 degrés, ça veut dire que systématiquement, ils atteindront les 50 degrés. L'Inde va devenir invivable. Voilà. C'est pour ça qu'il y a une urgence... Je pense qu'il faut saisir. Et oui, il y a déjà des solutions. Il y a déjà beaucoup qui a été fait, même sur l'adaptation. Hein, on ne peut pas le nier, ça se voit. Mais c'est toujours pas suffisant. À mon sens, de fait, ce n'est pas suffisant.
Michel Barassi, je vous dis, et j'ouvre les guillemets, la politique que je mènerai dans les 5 ans à venir sera écologique ou ne sera pas, je ferme les guillemets, vous l'aurez reconnu, Emmanuel Macron, pas le président Macron, plutôt le candidat Macron, c'était le 16 avril dernier à Marseille, il promettait aussi un changement de paradigme. L'environnement sera-t-il une priorité ?
Malraux avait dit le 21e siècle sera religieux, il disait spirituel d'ailleurs, ou pas. Je ne pense pas que ça a changé quoi que ce soit dans le problème. Non, mais les formules, bon. J'ai rien contre le président actuel, au contraire même. Mais la question, c'est qu'il veut être élu. Donc il fait une campagne électorale et il veut être... La question qu'on pose par rapport aux politiques, c'est très facile de dire que c'est la faute des politiques. Mais moi, je l'ai dit un jour devant le préfet de Corse, qui m'a regardé d'un drôle d'œil ce jour-là, dans une réunion publique. J'ai dit que les politiques étaient à notre image. Donc quand on critique les politiques, c'est nous-mêmes que nous critiquons. Alors peut-être que comme ce sont des élus, il y a un certain nombre de filtres, on en arrive à parfois des caricatures ou de l'exemplaire. Mais il n'en empêche que c'est bien l'image des gens.
Mais jusque-là, ils ont manqué d'ambition quand même par rapport à l'environnement.
Oui, mais est-ce que c'est pas parce que les gens ont manqué d'ambition ? Attendez, là, on parlait, est-ce qu'on est prêt à la sobriété ? La question n'est peut-être d'ailleurs pas la sobriété en tant que restriction, changement de mode de vie. Ce qui n'est pas tout à fait la même chose, parce que si on utilise le mot sobriété, en arrière va aller le terme d'ascétisme. Ce n'est pas du tout de ça dont il s'agit. Donc nous sommes ici véritablement dans une cassure. Il va falloir assumer cette cassure. Je pense que le rôle des structures culturelles, des structures d'éducation sont extrêmement importantes dans ce niveau-là. Il ne s'agit pas simplement d'enseigner le développement durable à l'école. Il s'agit de regarder les problèmes à travers ce filtre-là. Et je crois qu'on pourrait arriver assez rapidement à être moins en retard dans nos réalisations par rapport à ce qui est possible. Mais ne parlons pas de la sobriété, c'est pas parce que nous allons diminuer le gaz carbonique dans la transition écologique que les alcooliques cesseront d'être alcooliques. C'est pas un problème de sobriété. Non, mais je ferai de la caricature exprès.
Patrick Rubiou, est-ce que le changement climatique est pour l'heure l'exemple de mondialisation le plus abouti ?
Je dirais que surtout que la mondialisation a en grande partie entraîné le changement climatique qu'on constate actuellement. Puisque ça multiplie les transports, ça multiplie la consommation, ça multiplie la consommation d'énergie. Donc c'est plutôt une conséquence, quoi. Voilà.
Laurent Dominati.
Oui, on peut le dire. Enfin, moi, je suis beaucoup moins spécialisé que vous, donc je ne m'aventurerai pas sur ce chemin-là. Mais vous voyez, en même temps, la mondialisation est ce qui est le phénomène qui a permis de sortir de la pauvreté et de l'extrême pauvreté des centaines de millions d'êtres humains. Et quand on a vu la crise du Covid, et quand on voit maintenant aujourd'hui, avec l'Ukraine, un retour du protectionnisme, etc., eh bien, on lit les rapports de la Banque mondiale, de l'ONU, des différentes agences, et ils disent quoi ? Ils disent la fin, ou plutôt les freins à la mondialisation, la perturbation des circuits de distribution économique, des transports, provoque quoi ? Le retour de la famine. Donc vous voyez que là, quand on est à l'échelle de l'humanité, on dit qu'est-ce qu'il faut ? Plus de mondialisation ou moins de mondialisation ? Si les choix sont portés à quelqu'un qui vit en Afrique, bien sûr, il souffre de la sécheresse peut-être plus que nous. Hein ? Et en même temps, il souffre aussi de la guerre, de la misère, de la faim, des razzias de femmes, d'enfants, de bétail, etc. Donc voilà la complexité des différents problèmes. Et c'est pour ça que, avant de faire le procès de la mondialisation, je préfère faire l'investissement dans la technologie.
Je ne fais pas le procès de la mondialisation.
Non, non, j'entends bien, mais je vais plus loin. Factuellement, le monde est comme ça. Voilà.
Factuellement, voilà. Elle a entraîné de la consommation d'énergie. Voilà. Et ça ne veut pas dire qu'il faut la supprimer. Mais,
non, mais,
que, ça veut
mais
dire
comme
que...
tout développement économique, je dirais passé et actuel. Ce que Michel Barrat dit, et il a parfaitement raison, sur la croissance par exemple, moi je crois qu'il y a une croissance toujours économique, mais qu'elle peut être plus bleue ou plus verte, voyez-vous.
Michel Barrat.
Une remarque très simple. Qu'est-ce que ça veut dire la mondialisation ? Pour moi, ce n'est pas un terme nouveau. Hein. Je pense qu'il y a toujours eu de la mondialisation. Nous avons eu un monde qui était athénien, on a eu un monde romain. Si alors l'Empire romain, ce n'est pas une mondialisation, montrez-moi ce que c'est. Et puis le monde chrétien, ça a été une mondialisation. Il y a aussi une mondialisation islamique. Je ne parle pas de jugement de valeur, là, je dis des faits. Refuser la mondialisation, c'est refuser tout simplement l'existence. Le type de problème, c'est une mondialisation de quelle civilisation ? En gros, nous sommes passés d'une civilisation qui naît au 19e siècle, fin 18e, 19e siècle, dans lequel l'idéal civilisationnel, c'est le citoyen. Après, c'est le producteur, c'est l'industrialisation. Et aujourd'hui, notre mondialisation, c'est celui du consommateur. C'est la mondialisation du consommateur, y compris pour les pauvres. D'ailleurs, c'est bien pour ça qu'on a une révolte encore plus grande des pauvres, parce qu'on les traite non pas en producteurs, encore moins en citoyens, mais en consommateurs. Donc dans le changement civilisationnel qui est en cause ici, c'est effectivement la question de la consommation. Alors là, le mot sobriété va avoir un sens. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on consomme ? Pourquoi on le consomme ? Et là, je reviens à l'idée de croissance. Après tout... Quand vous avez un pays qui assure de la sécurité sociale comme la France, ça devrait faire partie de son PIB. Parce que c'est un bien. Donc là, c'est la conception ici, elle est bien un changement de mentalité. Alors, les gens ne sont pas prêts tout de suite au changement de mentalité. Il faudrait quand même que nos élites, qu'elles soient politiques, intellectuelles, scientifiques, participent à ce mouvement de changement de mentalité, parce que s'il n'y a pas de changement de mentalité, ça ne fonctionnera pas. Et ce que nous disons tous les trois ne pourra pas se faire, alors qu'il peut se faire.
Retour en local. Que peut-on faire à l'échelle de la Corse, région soumise à la pression touristique, énergétique, hydrique, immobilière ? Patrick Rebillon, vous avez les clés.
Non, pas vraiment. Les politiques qui ont déjà débuté, elles sont... pas si mauvais. Je pense qu'effectivement, il faut faire attention. Bah déjà, comment dirais-je, participer aux efforts d'atténuation. Donc ça veut dire qu'effectivement, il va falloir réfléchir aux énergies renouvelables. Et il y a aussi, surtout, je pense que le premier... Là, on a parlé du troisième volet, mais il y a le deuxième volet qui est l'adaptation, qui est beaucoup plus urgent. Il faut faire attention à ne pas se focaliser seulement... C'est un pléonasme, mais à se focaliser sur l'émission des gaz à effet de serre. Avec un degré, vous avez vu toutes les conséquences du changement climatique. Le 11 juin 2020, à Ajaccio, il y a un fleuve dans les rues. La Méditerranée a pris un degré. Si on ne fait rien, à la fin du siècle, ça peut être 4 degrés. Plus d'oxygène dedans, de l'acidité, c'est une catastrophe, quoi. Mais en attendant, là, sur le 1 degré, et en attendant les atténuations vertueuse qui nous permettrait de ne pas dépasser 1,5 degré ou 2 degrés, il y aura de toute façon des choses à faire. Donc sur, être précautionné avec l'environnement. Puis alors sur Terre, effectivement, commencer à faire attention, à s'adapter pour que le risque, les populations ne soient pas exposées. En tout cas, voilà. Il y a un vrai volet sur l'adaptation qu'il faut engager, qui est déjà engagé d'ailleurs, mais qu'il faut accroître, en fait, vraiment.
Oui. Ouais. Quelques mots ou plus, si vous le souhaitez, sur, nous l'avons évoqué la semaine dernière, la gestion des déchets, qui est une composante du développement durable. Sauf que dans l'île, alors on n'a toujours pas arrêté de solution pérenne. Lors de la dernière session de l'Assemblée de Corse, fin avril, Guy Hermanel, le président de l'Office de l'Environnement, a affirmé qu'il voulait entrer dans une phase d'action. Alors, quand on sait que le plan définitif est attendu à l'automne 2023, ça relève plutôt du slow motion, hein, d'une action ralentie. Qu'avons-nous appris ? Le rapport original retoqué par le préfet Lelarge a été modifié et représenté à l'Assemblée. L'incinération n'est pas à l'ordre du jour. La territorialisation de la gestion des déchets sera privilégiée. Un centre de surtri sera suffisant, selon la majorité. De toute façon, ça coûte cher. Comprendre, on n'aura pas les moyens d'en avoir plus. L'idée étant de produire des combustibles solides de récupération à haut pouvoir calorique pour limiter l'enfouissement et le stockage. Alors, Michel Barra, Laurent Dominati, on a bien compris que le plan était très très loin d'être bouclé, mais ça manque surtout de courage politique, cette histoire. C'est une liste de non-choix. Qu'est-ce qui bloque, Michel Barra ?
Écoutez, je crois qu'il faut mettre les choses très en face. Quels sont les intérêts qui sont derrière la question des déchets en Corse ? Une fois qu'on aura répondu à cette question, on aura répondu à l'incapacité ou les handicaps, je vais presque dire physiques ou économiques, des différents acteurs politiques de la Corse, quelle que soit leur couleur politique. Parce que derrière ça, c'est qu'on est en train de me parler encore d'enfouissement. L'enfouissement, c'est ce qu'il y a de pire. C'est ce qui va polluer les nappes phréatiques. Il y a d'autres solutions que les enfouissements. Et en plus, après, on va me parler de combustible. J'enfouis et puis je vais parler de combustible. Ces combustibles qu'on met où ? Qui viennent de quoi ? De quel incinérateur ? Puisqu'on n'en veut pas d'incinérateur. On est dans la mauvaise pâtée pour les chats. Hein. Écoutez, on a même des gags, puisqu'on a du tri. On a du tri, c'est-à-dire on voit dans certaines communes des sacs ficelés dans lesquels on va les ramasser, trier. Il n'y a qu'un type de problème, si vous les suivez, vous allez vous apercevoir que ça va aller tout ça dans le. Ça va rejoindre la même benne ou le même enfouissement. C'est-à-dire que le tri va se faire à la sortie des particuliers pour redevenir des déchets communs. On est dans le gag, mais ce gag, il va se terminer en tragédie.
Laurent Dominati.
Mais là, c'est un sujet formidable, si je puis dire. C'est un sujet formidable d'échecs. Mais c'est vrai, c'est un problème formidable d'échec même démocratique. Parce qu'effectivement, le tri est soi-disant fait. Il diffère d'ailleurs selon les différentes communes. On fait de l'enfouissement et puis on le fait de façon quasiment illégale. Hein. Je veux dire que la préfète antérieurement a dû prendre des arrêtés pour obliger les camions à passer. Enfin, on est là dans un système vraiment démocratique puisque ceux qui gèrent, faut le dire, c'est pas là, c'est pas le préfet ni l'État. Là,
c'est la compétence de la région.
C'est la compétence locale. Alors, elle est partagée, le CIVADEC, etc. Et puis, c'est un problème aussi démocratique parce que ce sont les Corses qui payent là. Les Corses payent beaucoup plus cher que sur le continent, beaucoup plus cher la tonne, et pour un service beaucoup moins bon. Et à la fin, quand on ne sait plus quoi faire. Ah, voilà enfin un produit d'exportation. Non mais attendez, on devient ridicule. Donc je dirais que là, on a un problème, je dirais, formidable parce qu'il est fondamental. Là, on a à peu près tout échoué. Ce n'est pas le rapport que je critique, c'est l'ensemble. Oui. Il y a une mécanique, d'intérêt, qui est une mécanique de non-transparence, qui est une mécanique peut-être un peu de peur ou de crainte, hein, qui est une mécanique de manque d'imagination sans aucun doute. Parce que malgré tout, il y a beaucoup d'îles dans lesquelles il y a des déchets en Méditerranée. Il y a beaucoup de communes en Europe qui doivent traiter des déchets. Il y en a en Italie. On ne voit pas cela. Et ça, c'est vraiment un tel mauvais exemple qu'il devrait être transformé en le meilleur exemple possible. On devrait aller chercher ce qui se fait de mieux en Europe et dire, bon voilà, c'est dans telle commune allemande ou en Suisse ou en Italie, il y a des expériences formidables. Hein. Je vous signale qu'on ne sait pas très loin, il y a des expériences formidables. Il y a l'association ici Zéro Phrase ou qui dit pas de déchets. Sous prétexte d'ailleurs de ne pas avoir de déchets, on a refusé toutes les solutions qui ne mettraient pas un tri intégral. Il faut peut-être un peu de temps pour les mettre en œuvre. Donc vous voyez, il y a des contradictions qui se font aussi au niveau des politiques ou des excuses qu'ils ont trouvées pour ne pas faire ce qu'on pourrait faire. Bref, là, c'est vraiment un problème qu'on pourrait prendre à bras-le-corps. Et moi, j'ai toujours été un peu étonné par ça, parce que je me dis, après tout, s'il y a un sujet qui est un sujet fondamentalement politique, pratique, quotidien, humain, etc., c'est celui-là. Et là, on n'a besoin de personne.
Nous aurons l'occasion de revenir sur cette question. Parlons plutôt de ce qui marche, Laurent Dominati. Je le disais, vous présidez l'association Sauver la Méditerranée, qui organise son premier festival à Ajaccio du 20 au 22 mai prochain. Alors, la Méditerranée peut être sauvée depuis la Corse. Il faut bien commencer quelque part.
Mais évidemment, il faut bien commencer quelque part.
Alors, autant que ce soit
Ajaccio
ici.
Ajaccio étant capitale impériale, on commence en Corse. En fait, on n'a pas commencé tout à fait en Corse, parce que j'avais déjà fait une réunion à Marseille avec Renaud Muselier à l'époque au Conseil régional. L'idée soutenu par Jean-Bernard Lafonta, qui est un grand chef d'entreprise corse d'ailleurs, mais au niveau international. Il a fait une fondation pour la Méditerranée, et puis on recueille un peu d'argent d'entreprise, et on finance d'autres associations comme Marée Vive ou comme Adopte un Spot. Adopte un Spot, c'est à Marseille, ils reconstituent des rochers pour faire venir les poissons et les protéger. On a pris, alors là, bon, c'est pas très très vertueux, mais enfin, ça l'est quand même un peu. On a investi dans un four avec d'autres associations, avec les mairies de Nice, où on récupère des plastiques, on les met dans un grand four avec un professeur, Géo Touftou, qui est dans les Alpes. Les Alpes de Haute-Provence, il cuit ça et ça en fait de l'essence et du pétrole. Vous allez me dire, c'est pas terrible d'avoir de l'essence du pétrole, mais on équipe un bateau avec ça, enfin pas nous, hein, d'autres associations que l'on aide ou pas d'ailleurs. Ils ont un bateau qui marche, ils vont montrer cette espèce de four en Afrique du Nord, en Afrique, et là, ça intéresse les gens qui sont pauvres et qui ramassent le plastique, et comme ça, à la fin, ils le récoltent. Et ils en font de l'essence, qu'il a une valeur. Donc on donne de la valeur. Mmh. En réalité, c'est de la valorisation des déchets, mais petit à petit. Bon, on fait beaucoup de choses comme ça. Et donc j'avais fait cela pour réunir les chefs d'entreprise, les décideurs politiques, les associations. Parce que je crois effectivement que toutes ces questions écologiques, il faut mettre tout le monde. Les décideurs politiques, parce que ce sont les normes et le droit. Les chefs d'entreprise, parce que c'est eux qui vont investir et qui vont traiter. Hein, c'est... S'il n'y a pas de moteur économique, ça ne pourra pas marcher. Et puis les associations, parce que c'est elles qui inventent, c'est elles qui propagent. Ça, c'est l'action citoyenne. Et puis je l'ai fait à Ajaccio. Alors on a dû interrompre avec le Covid. Maintenant, je vais le faire à Ajaccio, mais sous forme d'un festival pour faire la fête. Parce que je ne crois pas qu'on le fait dans la contrainte, dans la punition, dans le pleur ou le larmoiement. Je pense qu'il faut au contraire être plutôt festif et heureux. Donc j'essaye de faire ce festival avec la mairie d'Ajaccio d'ailleurs. Mais on sera aussi soutenu, je pense, par un comité de Corse, pour faire des films, faire venir des artistes, avoir un parcours pédagogique. Il y aura une magnifique exposition Place des Palmiers. Et tout le monde est invité, surtout, je le dis. L'inauguration 18h30, Place des Palmiers, vendredi prochain, et à l'Espace Diamant, et bien samedi matin, film, débat, projection, etc. Et dans l'après-midi, des démonstrations au port de la Miroté pour dire Ajaccio pour exemplaire. Pardonnez-moi, je fais la publicité. Hein.
Mais vous savez qu'on a le temps, hein, parce qu'on va y revenir.
Je dis tout d'un Ajaccio pour exemplaire, et puis démonstration de nettoyage de plage avec des associations sur la plage du Trotel. Voilà. C'était mon quart d'heure publicitaire pour sauver la Méditerranée, mais elle le mérite. Mais
on va y revenir, Laurent Dominette. Patrick Rebiou, la Méditerranée est la mer la plus polluée du monde, qui se réchauffe extrêmement rapidement. C'est une jauge du changement climatique, évidemment.
C'est surtout une des régions les plus exposées aux conséquences du changement climatique. Vous avez dû entendre parler du terme hotspot du changement climatique. Oui. Et donc oui, c'est une des zones les plus exposées. Avec, alors je ne parle pas de la mer Méditerranée, mais en tout cas sur ses côtes, une tendance à l'aridité, notamment sur les rives sud de la Méditerranée. Et après, je redis, le réchauffement va impliquer, le changement climatique en tout cas va impliquer... un changement de la circulation thermohaline de la Méditerranée, hein, ce qu'on appelle les formations d'eau dense, etc., qui la nourrissent en oxygène, elles ont tendance à diminuer avec le changement climatique. Et donc, on peut très bien imaginer que si on ne diminue pas les gaz à effet de serre, elles soient une mer morte, c'est-à-dire avec plus de poissons dedans, hein, avec les conséquences que ça a sur l'alimentation, etc.
Bien sûr. Michel Barra.
Oui, mais écoutez, quand on parle de la Méditerranée, prenez le problème des algues. Arrivent en Méditerranée des algues qui n'y étaient pas et qui sont des algues tueuses. Donc là, nous avons un vrai problème. Et puis, c'est quand même une mer fermée, la Méditerranée. C'est, nous sommes, alors, historiquement, on a quand même ici une belle image. C'est la mer qui va le premier mourir, c'est la mer qui a été porteuse de la civilisation. C'est quand même une boucle qui se boucle dans le mauvais sens. Donc là, sur la défense de ce qu'est la Méditerranée, là aussi c'est un combat civilisationnel, y compris par rapport à tous les conflits qu'on peut voir aujourd'hui. La défense de la Méditerranée, c'est la défense d'une manière de vivre. Mais d'une manière de vivre qui est, comment ils disaient les Grecs, l'harmonie avec la nature. C'était pas le thème essentiel de toutes les philosophies grecques. Alors je vous dirais, ici, relisons un peu les grands penseurs grecs, et on sauvera peut-être la Méditerranée. On va le faire, mais Laurent Lerly.
Juste pour prolonger, parce que c'est c'est vraiment le sens de l'idée de sauver la Méditerranée. Je crois que si l'Europe, la deuxième partie du XXe siècle, a été le grand projet politique, ça a été l'Europe, la construction de l'Europe, la paix, et la paix en Europe, et cette construction d'unité européenne, le grand projet du XXIe, c'est de sauver la Méditerranée. Enfin, c'est pas de sauver les bonnes associations, c'est pas ça. Non. Mais je veux dire par là, c'est unir les pays de la Méditerranée. Nicolas Sarkozy, en créant, après Jacques Chirac d'ailleurs, en créant l'Union pour la Méditerranée, avait essayé de le faire. Ça a été un peu sabordé par les conflits et les intérêts particuliers de chaque pays. Mais tous les pays riverains de la Méditerranée ont une seule chose en commun, et absolument vitale pour chacun d'eux, c'est la mer, c'est la santé de la mer. Si la mer devient une mer morte, les riverains, qu'est-ce qu'ils deviennent? Bon, ils vivent dans le désastre. Donc là, c'est un projet, je dirais, politique précis, qui devrait permettre d'unir tous les pays de la Méditerranée, au moins sur ce plan-là. Sur le reste, on ne sera certainement pas d'accord, il y aura toujours des conflits, mais là, on peut se mettre d'accord, et il faut se mettre d'accord, parce que c'est une question, effectivement, de survie. Donc c'est un vrai projet politique et c'est la raison pour laquelle je crois que tout le monde va y participer. Ici, à Ajaccio, tout le monde y participe. Tous les hommes politiques auxquels j'en ai parlé viennent, sont d'accord, ont des idées, veulent le faire, ce qui est quand même un bon point de vue. Et puis, une fois qu'on sera nous-mêmes en Corse exemplaires, eh bien, on exportera notre savoir-faire et nos excellentes idées, notre bonne humeur dans les autres pays riverains.
L'objectif, c'est la sensibilisation, l'information.
Mais et l'Europe n'existerait pas sans la Méditerranée. La déesse Europe est née où? Au Liban, s'il me semble bien. Regardez la catastrophe qu'est le Liban, non pas simplement sur le plan politique, etc., mais sur le terme écologique, qu'est-ce qui est devenu le Liban. Et donc, là où est née l'Europe, la déesse Europe, elle est dans le déclin. On ne sauvera pas l'Europe par Stockholm, je suis désolé.
Exactement.
On la sauvera par la Méditerranée.
Et quand on voit à Beyrouth, on voit une langue de terre qui est formée uniquement par des déchets.
Bah oui,
et ces déchets-là,
vous
les retrouvez au large d'Ajaccio, puisque l'espèce de mare de plastique, de granulés plastiques, on ne les voit pas comme ça, mais qui est au large de la Corse, elle ne vient pas des Corses, hein, mais elle vient de toute la Méditerranée. Personne n'aurait l'idée de jeter un mégot dans une piscine. Ou un gobelet en plastique. C'est ce qu'on fait. La Méditerranée, c'est une mer fermée, un siècle pour se renouveler.
Laurent Dominati, l'objectif de ce festival, de ces trois jours, c'est la sensibilisation, l'information de tous les publics?
Oui, c'est l'information, la sensibilisation de tous les publics et la présentation aussi de différents projets par des associations, par des entreprises, par des mairies ou par
des voilà, collectivités.
Qui vont montrer comment pratiquement. C'est pas justement ce n'est pas du tout que du discours, ce sont des actions très concrètes. Et on va proposer trois gestes pour les Méditerranées. En réalité, il y en aurait 200 à faire, mais on va commencer par trois avant l'été. Hein. On va faire un, ne jeter rien sur les plages. Vous voyez, chacun peut le faire, ça. Deux, ramasser sur les plages. Chacun peut le faire aussi. Trois, quand vous allez vous baigner, la crème solaire. Choisissant une qui ne tue pas la mer. Parce que les crèmes solaires actuellement ont des produits, sauf quelques-uns, qui tuent l'eau, qui tuent les corails, qui tuent le.
Oui, absolument. Vous
voyez, chacun déjà peut faire quelque chose. Et puis après, une fois qu'on aura bien enregistré ces trois gestes, vous inquiétez pas, il y en aura d'autres.
Très bien. Et je rappelle donc que tous les rendez-vous sont à retrouver sur les pages Facebook et Instagram de l'association Sauver la Méditerranée, donc du 20 au 22 mai prochain à Ajaccio pour le premier festival de la Méditerranée. Dernier tour de table, messieurs. Après tout ce qu'on s'est dit, peut-on être alors raisonnablement optimiste pour la suite, Laurent Dominati?
Alors moi, je l'ai déjà dit, je pense.
Oui,
que,
voilà, vous confirmez.
Quand on est lucide et quand on voit les problèmes, on est d'autant plus obligé d'être optimiste. Sinon, on va pleurer, on va se coucher. Donc, c'est pas la peine. Donc, c'est un devoir d'être optimiste. C'est pas un caractère. C'est un devoir. Si vous ne l'êtes pas, forcez-vous.
Michel Barra.
Oui, moi, j'ai un point de vue un peu différent. Je pense que du point de vue de la raison, il faut être pessimiste. Ce qui n'empêche pas d'avoir l'optimisme de la volonté. C'est deux choses différentes. Les béatitudes n'amènent pas beaucoup de progrès. Mais si on est dans le pessimisme pur, peut-être l'argument paresseux. Et là, Laurent a parfaitement raison. Donc le pessimisme de la raison et l'optimisme de la volonté.
Patrick Ruby, vous avez le mot de la fin.
Merci. je rejoins plutôt Michel. Alors, moi, je suis très pessimiste. au vu de ce qui se passe depuis 40 ans avec les premiers rapports du GIEC pratiquement, et au vu de ce qui se passe maintenant et les enjeux qu'il y a et les efforts à faire, il y a des possibilités dans un créneau qui est très court. Et il ne me semble pas que ce soit la tendance, en tout cas. Donc je suis très pessimiste. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut tout abandonner. Hein. Et d'ailleurs, ce n'est pas parce qu'on va rater les efforts pour 1,5 degré et 2 degrés qu'il faut arrêter les efforts pour éviter le 3 degré.
Non, au contraire, il faut redoubler d'efforts.
Voilà. Mais je suis plutôt pessimiste. Oui.
Bon, écoutez, l'avenir nous le dira. Laurent Dominati, Michel Barra, Patrick Rubion, merci de m'avoir accompagné. On se retrouve très bientôt. Et je rappelle donc les dates du premier festival de la Méditerranée du 20 au 22 mai à Ajaccio, Revue de Corse. C'est fini pour aujourd'hui, mais ça continue tout le week-end. Vous pouvez réécouter cette émission demain à 13h et dimanche à 18h, ainsi que sur notre site internet corsicaradio.fr. On se dit à très vite. Salut !